France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le procès des stérilisés de Bordeaux. En 1935, Norbert Bartoszek, un militant libertaire autrichien, est arrêté et jugé à Bordeaux, donc, pour avoir procédé à des vasectomies sur une quinzaine d'hommes qui lui en avaient fait la demande. Pour ses employés, ouvriers, petits commerçants, souvent anarchistes, mais aussi pour leurs partenaires, cette opération constitue un moyen de contraception efficace à une époque où les avortements clandestins font des ravages et des victimes. Mais c'est aussi un geste politique. Alors que les autorités françaises de l'entre-deux-guerres entendent repeupler le pays pour faire face à la menace d'un nouveau conflit, ne pas avoir d'enfants, c'est refuser de produire de la chair à canon, selon les mots de l'époque. Près d'un siècle plus tard, ce procès méconnu trouve un écho tout particulier. Alors que les femmes ont gagné le grand combat de la libre contraception, elles en portent aujourd'hui quasiment toute la charge. Et pourtant, la formule masculine existe, et la vasectomie notamment, est légale depuis 2001. Notre invitée aujourd'hui est Élodie Serna, chercheuse indépendante, autrice de « Faire et défaire la virilité » publiée aux presses universitaires de Rennes, et de « Opération vasectomie, histoire intime et politique d'une contraception au masculin », livre publié aux éditions Libertalia en 2021. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Jeanne Maillère, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation David Le Prince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Les samedis 23 et dimanche 24 mars 1935, les époux André et eux, et André et Prévotel, employés de poste à Bordeaux et parents d'un petit garçon, accueillent à leur domicile une quinzaine d'hommes venus se faire opérer clandestinement par Norbert Bartoszek. Oui, clandestinement. Car en 1935, la stérilisation, tout comme l'avortement, n'est autorisée ni par la loi, ni par la morale bourgeoise, qui souvent se rejoignent. Norbert Bartoszek, 33 ans, natif de Slovénie autrichienne, est assisté de Jean Baeza, ouvrier plombier, et de Louis Harel, teinturier, les deux âgés de 33 et 34 ans. Ils opèrent ensemble une quinzaine d'hommes, dont le moins anonyme est sans doute Aristide Lapeyre, car il n'y en a pas deux comme lui. Cette figure bien connue de l'anarchisme local tient à Bordeaux un salon de coiffure. Dans une chambre de l'appartement des Prévotel, rue Bière, sur la rive gauche de la Garonne, Norbert Bartoszek a installé une salle d'opération artisanale. On lui a fourni du linge, du désinfectant et une lessiveuse qui fait office d'étuve pour stériliser ses instruments. Le tarif de l'opération varie selon les moyens des patients, entre 150 et 500 francs, des sommes modiques à l'époque, accessibles à tous et en particulier aux plus précaires. L'opération, elle, est rapide. Quelques minutes, tout au plus, quasiment indolore, grâce à une anesthésie locale, une injection de cocaïne. Le docteur Lejeune, interrogé par le journal Paris Soir en 1935, l'a décrit ainsi.
L'opération pratiquée sur les stérilisés de Bordeaux est celle qu'on nomme en médecine la vasectomie. Elle consiste à pratiquer une incision dans le scrotum et à couper un canal dit déférent.
Lame de 10. Scalpel.
La vasectomie rend l'opéré immédiatement stérile. Elle n'est ni longue, ni douloureuse. Je l'ai couramment pratiquée, car on la considérait comme le traitement ordinaire et normal de certaines maladies.
Si Norbert Bartoszek maîtrise bien les gestes de la vasectomie, c'est parce que c'est une opération simple, en effet, et bien connue dans les années 30, notamment via la méthode dite Steinar. Eugène Steinar, un endocrinologue autrichien, a popularisé 10 ans plus tôt l'usage de la vasectomie comme moyen de redonner de la vigueur aux hommes vieillissants. Une sorte d'élixir de jouvence réservé à la gent masculine. Dans les milieux bourgeois allemands, autrichiens et américains, des milliers d'hommes, dont Sigmund Freud, font alors confiance à la méthode Steinar dans l'espoir de rebooster leur virilité. On pense à l'époque que l'opération est complètement réversible, ce qui n'est pas toujours le cas, on le sait aujourd'hui. Mais Norbert Bartoszek, le chirurgien qui opère Rumière à Bordeaux, a construit sa carrière loin des cliniques privées et des rêves de jeunesse des plus fortunés. Formé en Autriche avec ses frères, médecins tous les deux, il envisage la vasectomie comme un acte médical à visée contraceptive, mais aussi comme un geste militant. Pour lui, en effet, comme pour d'autres libertaires en 35, le constat s'impose. La stérilisation des hommes est d'abord une alternative aux dangereux avortements qui provoquent sous le manteau la mort de milliers de femmes chaque année, à une époque où les moyens de contraception légaux sont quasi inexistants. Le préservatif, lui, reste un objet tabou, souvent associé aux maladies vénériennes et à la prostitution. Reste le coït interrompu. Bof. Et les méthodes naturelles d'observation, peu fiables, ainsi que l'abstinence, solution aussi absurde que radicale. De surcroît, la vasectomie, telle que la pratique Bartoszek, permet d'éviter les naissances non désirées et les familles trop nombreuses, notamment dans les milieux les plus pauvres. À quoi bon faire des enfants si on ne peut pas les nourrir, hein? C'est l'une des questions que posent avec Norbert Bartoszek les néo-malthusiens, dont la doctrine s'est développée en Angleterre au début du XXe siècle. Une pensée que résument ainsi les féministes anarchistes Alexandra David-Neel et Nelly Roussel dans des tracts militants.
Camarades, la surpopulation est la cause primordiale et naturelle de la guerre et de la misère. Elle engendre, par répercussion, le célibat, la prostitution. Contre ces terribles fléaux, nous préconisons la limitation raisonnée, volontaire des naissances et affranchissons, du même coup, la femme de l'esclavage, de la fécondité.
Femmes fortes, nous sommes fiers, et féministes radicales et en colère.
Le néo-malthusianisme apporte tout de suite une amélioration chez le salarié pauvre et aide grandement à la réalisation de son émancipation intégrale. C'est peut-être l'arme la plus terrible qu'on puisse employer contre toutes les puissances opprimantes. Capitalisme, cléricalisme, militarisme, etc.
Autrement dit, ni chair à canon, ni chair à patron, ni chair à trottoir. Telle est la pensée néo-malthusienne au début du XXe siècle. Faire des enfants, trop d'enfants, lorsqu'on est issu d'un milieu populaire, c'est enrichir la bourgeoisie en lui fournissant des soldats, des ouvriers, des prostituées. Pour contrer l'oppression bourgeoise, la classe ouvrière doit donc œuvrer au contrôle des naissances, loin des politiques pronatalistes mises en place par l'État après la Première Guerre mondiale. C'est clairement une ode à la liberté qu'exprime et que met en place Norbert Bartoszek, l'homme qui sera bientôt au cœur de l'affaire des stérilisés de Bordeaux. Et c'est ainsi que son ami M. Day, un militant anarchiste belge, préface son ouvrage intitulé « La stérilisation sexuelle, son importance eugénique, médicale et sociale ».
Notre corps n'est la propriété ni de Dieu, ni de l'Église, ni de la loi. Notre corps est à nous. Nous entendons en disposer selon notre libre entendement. C'est à ce titre que nous entendons revendiquer le droit à l'individu de se faire stériliser. Nous sommes des réfractaires. Nous voulons vivre et disposer de nous comme nous l'entendons, pour notre plus grande joie et notre plus intense bonheur.
En 1932, trois ans avant l'affaire de Bordeaux, Norbert Bartoszek a 30 ans lorsqu'il se retrouve impliqué dans un scandale qui agite l'opinion publique autrichienne. À Graz, à l'est du pays, 85 personnes sont arrêtées sous l'accusation de porter atteinte à la morale publique. Cette rafle fait suite à la découverte d'un réseau clandestin de vasectomie mis en place par un groupe de médecins progressistes et de militants anarchistes. Parmi eux, Pierre Ramus, militant pacifiste et libertaire, défenseur de la doctrine néo-malthusienne, qui prône la limitation volontaire des naissances comme moyen de lutte contre la misère et contre la guerre. Norbert Bartoszek, qui a participé à des opérations de vasectomie en Autriche, lui-même opéré, choisit de fuir avant d'être arrêté. Son exil le conduit d'abord en Espagne, vers Saint-Sébastien, puis en France, où il s'établit dans un premier temps à Lyon. Là, il poursuit son engagement militant en pratiquant des vasectomies au bénéfice de ses compagnons de lutte, dans l'arrière-boutique d'un débit de boisson lié à la Confédération Générale du Travail syndicaliste révolutionnaire. En 1935, Bartoszek arrive donc à Bordeaux, au 6 rue Mière, chez André et André Prévotal, où il possède à la procède à la stérilisation de 15 hommes avant d'être dénoncé. Camille Malan, qui l'a précédemment opéré à La Rochelle, se souvient des années plus tard, dans le journal libertaire et antimilitariste Le Réfractaire.
un hasard de circonstances malheureuses a mis fin momentanément à l'activité si précieuse de Nono, comme nous appelions dans l'intimité Norbert. Un de nos camarades s'est fait opérer sans en prévenir sa femme, sachant qu'elle ne serait pas consentante. Il lui arrivait quelquefois d'avoir des crises d'épilepsie, et cela Nono ne le savait pas. De retour chez lui, ce camarade a eu une crise presque aussitôt. En déboutonnant le pantalon, comme elle en avait l'habitude dans ces moments, sa femme a aperçu les pansements et a fait venir le docteur, lui disant qu'on avait mutilé son mari. Et c'est ce docteur qui a fait venir la police.
En 1935, aucune loi ne concerne strictement la vasectomie, qui, sous cette appellation, n'est ni autorisée ni interdite. Mais pour les autorités, les opérations menées par Norbert Bartoszek sont inadmissibles, d'un point de vue à la fois médical, moral et politique. L'article 316 du Code pénal interdit la castration, une opération différente, mais souvent confondue avec la vasectomie, tandis que l'article 319, lui, sanctionne les atteintes volontaires à l'intégrité corporelle d'autrui, même en cas de consentement. Quant à la loi de 1920 sur la protection de la famille et la natalité, elle condamne toute provocation à la limitation des naissances. Adoptée après la Première Guerre mondiale, elle participe d'une politique nataliste qui vise à repeupler la France après la Première Guerre mondiale et l'épidémie de grippe espagnole de 1918. Cette loi, votée à 521 voix contre 55, vise essentiellement l'avortement, mais également toute incitation à ne pas faire d'enfants. Le contrôle des naissances ne relève plus du choix individuel, mais du destin national.
Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5000 francs, quiconque aura provoqué à la limitation volontaire des naissances ou à toute pratique contraceptive. Sera également puni des mêmes peines quiconque aura propagé, fabriqué, vendu ou mis en circulation des moyens contraceptifs. La présente loi tend à assurer la protection de la famille française, à soutenir la natalité et à préserver les principes moraux fondés sur la sacralité de la procréation.
André et André Prévotel sont arrêtés à Bordeaux le 30 mars 1935, à peine une semaine après que Norbert Bartoszek a procédé à des vasectomies dans leur appartement bordelais. Leur ami Aristide Lapeyre les rejoint le lendemain à la prison du Fort du Hâ, menotté et sous escorte policière. Louis Harel, soupçonné d'avoir assisté le chirurgien lors des opérations, est lui aussi incarcéré. Mais Bartoszek et son second assistant, Jean Baeza, restent introuvables. Lors de différentes perquisitions menées notamment chez le couple Prévotel et dans la teinturerie de Louis Harel, la police met la main sur du matériel chirurgical ainsi que sur des brochures faisant la publicité de la vasectomie. De possibles éléments à charge. Les interrogatoires se déroulent sans incident. Les différents témoins auditionnés défendent Norbert Bartoszek en assurant les enquêteurs de leur bonne santé. Oui, ils étaient consentants. Et non, non, ils n'ont pas été mutilés par cette opération qu'ils jugent d'ailleurs anodine. Trois médecins bordelais sont chargés de les examiner et d'apporter une expertise en vue du procès sans que leurs conclusions ne soient rendues publiques. Le 2 avril, 9 jours après les opérations de la Rumière, Norbert Bartoszek, visé par un mandat d'arrêt international, est arrêté à Bruxelles, près de la gare du Midi. L'intransigeant, un quotidien parisien, se questionne.
Médecin ? Bartoszek ne l'est même pas. Comment put-il acquérir la dextérité et la science nécessaires à la pratique d'opérations aussi délicates ? On pense que, pendant un certain temps, il dut être l'assistant ou l'infirmier d'un chirurgien. Il a été longuement interrogé. Mais sur ses déclarations, les enquêteurs ne veulent rien dire. Est-ce à dire que Norbert a avoué ? C'est fort probable. Et il semble que le pseudo-médecin autrichien ait été l'opérateur international des militants de la doctrine nouvelle et qu'il allait d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, faire son inquiétant office.
Alors que la police interroge témoins et prévenus, patients et médecins, assistants et hôtes, elle comprend avec stupeur que les opérations de Bordeaux sont loin d'être des cas isolés. sur la Côte d'Azur, en Dordogne, à Paris et en Île-de-France, d'autres villes, d'autres réseaux d'opérations surgissent, sans que Norbert Bartoszek, ni aucun de ses co-accusés, ne puisse y être formellement associé. Incarcéré en Belgique, le chirurgien autrichien et son assistant Jean Baeza, qui a fui en Espagne, sont finalement inculpés au motif de castration et de coups et blessures volontaires. Quant à Louis Harel, Aristide Lapeyre et André Prévotel, ils sont accusés de complicité, tandis que la femme de ce dernier bénéficie, elle, d'un non-lieu. Le 3 décembre 1935, 8 mois après son arrestation, Norbert Bartoszek quitte la Belgique pour la France au terme d'une procédure d'extradition longue et confuse. C'est donc depuis la prison du Fort du Hâ, à Bordeaux, qu'il attend d'être jugé, sans se douter que ce procès fera couler plus d'encre que lui n'a fait couler de sang.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire des stérilisés de Bordeaux.
Affaires Sensibles.
Demandez le journal.
Demandez le journal.
Demandez le journal.
Demandez le journal.
Fabrice Drouel.
Dès l'arrestation du couple Prévotel et de Norbert Bartoszek, qui a procédé chez eux à des vasectomies, la presse s'empare de l'affaire dite désormais des stérilisés de Bordeaux. Le journaliste Adhémar de Montjon, dans Le Petit Bleu, un quotidien parisien illustré, s'en amuse ouvertement dans son édition du 2 avril 1935.
Ce n'est pas un poisson d'avril, un de ces petits poissons qui ne deviennent jamais grands parce que Dieu ne leur prête qu'un jour de vie. On a découvert à Bordeaux des stérilisés. La stérilisation est à la mode dans les départements du Sud-Ouest. À Marennes, on stérilise les huîtres. À Bordeaux, on stérilise ceux qui les mangent. Voici l'histoire en raccourci. La police bordelaise a mis la main sur une association de libertaires qui se faisait stériliser. La chose est assez difficile à décrire en termes honnêtes. Le médecin, qui serait, dit-on, allemand, est poursuivi. La morale est décidément une affaire de mode.
Mais une grande partie de la presse prend la chose bien plus à cœur. L'histoire de ces Bordelais qui ont souhaité être stérilisés fait rapidement l'objet d'une controverse très sérieuse et à l'échelle nationale. Esprit sommaire ou excessif, faux intellectuels, misérables convertis. L'Intransigeant et la Dépêche du Centre, parmi d'autres journaux, condamnent des opérations décrites tantôt comme des chimères pseudo-philosophiques, tantôt comme de barbares sacrifices. Intellectuels, médecins, religieux, militants et quidam, l'opinion publique tout entière se passionne pour cette singulière affaire qui s'invite en première page des quotidiens français. Le fait divers devient fait de société, car il fait débat. Il y a d'abord ceux qui, avec l'Église bien sûr, condamnent l'immoralité d'une telle opération et les dangers pour la jeunesse d'une sexualité libre et non reproductive. Le quotidien Le Matin dénonce ainsi des mœurs sauvages que l'on pouvait croire disparues de notre monde civilisé. Le Figaro lui préconise l'abstinence selon, je le cite, les indications de l'Évangile selon saint Matthieu. Il y a ensuite ceux qui voient dans la vasectomie une atteinte à la masculinité des Français. Enfanter, et si possible enfanter beaucoup, c'est faire preuve d'une vigueur virile que la stérilisation outrage et anéantit dangereusement, entend-on. Pour un grand nombre d'observateurs, ces opérations sont à condamner dans leur dimension collective. Se priver de progéniture, c'est avant tout priver la France de soldats. Alors qu'en 1935, plane déjà l'ombre menaçante de la peste nazie. D'ailleurs, Norbert Bartoszek, le chirurgien, n'est-il pas autrichien ? À côté d'un article consacré au réarmement intensif de l'Allemagne, la dépêche du Centre du 2 avril 1935 se permet des hypothèses.
L'enquête a révélé qu'un spécialiste étranger, autrichien, croit-on, et deux de ses assistants de Bordeaux traitèrent plusieurs misérables convertis dans un appartement privé et disparurent précipitamment. La police fut avertie du succès de la foi nouvelle dans certains milieux bordelais et certains furent arrêtés. Quant au médecin qui a opéré, est-il un propagandiste convaincu du néo-malthusianisme ou un agent de l'étranger désireux d'atteindre la France dans ses sources vives ? Les suppositions, même les plus romanesques, sont permises.
Nourri par le chauvinisme guerrier ambiant, une partie de la presse érige le milieu anarchiste Norbert Bartoszek en figure de l'ennemi intérieur venu saper les forces de la nation. Beaucoup d'articles mentionnent par ailleurs d'obscurs réseaux étrangers auxquels le chirurgien appartiendrait sans que cela ne renvoie à une réalité concrète. Le complotisme ne date pas d'aujourd'hui. Quant aux patients qui ont bénéficié du savoir-faire de Bartoszek, ils sont présentés soit comme les victimes d'une manipulation, soit comme des illuminés. Dans tous les cas, des idiots utiles. Du côté de la presse libertaire, on craint que l'affaire ne serve de prétexte aux autorités pour discréditer le mouvement anarchiste et accentuer la répression sur ses militants. Un comité de défense sociale est créé en soutien aux camarades emprisonnés. Norbert Bartoszek, Aristide Lapeyre, André Prévotel et Louis Harel. À Bordeaux, mais aussi à Lyon ou à Marseille, des meetings sont organisés avec le concours d'associations comme la Ligue des droits de l'homme. L'un des enjeux principaux de cette affaire, pour le mouvement libertaire, c'est de se montrer unis autour d'une question dont tous les militants ne sont pas saisis, celle de la limitation des naissances. Il s'agit également de bien faire la différence entre la vasectomie à visée contraceptive que pratique Bartoszek et les stérilisations forcées en cours en Allemagne. Car depuis le vote de la Saloi de juillet 1933, le régime nazi impose la stérilisation des personnes considérées comme porteuses de tares héréditaires, supposées nuire à la pureté du peuple allemand. Déficience mentale, schizophrénie, bipolarité, alcoolisme, cécité ou surdité. Sont également stérilisés les bâtards rhénans, ces enfants métis nés de soldats africains ou asiatiques, lors de l'occupation de la Rhénanie par les troupes coloniales françaises pendant la Première Guerre mondiale. En 1935, environ 100 000 personnes ont déjà été stérilisées contre leur volonté en Allemagne. Elles seront au total plus de 400 000 en 1945. La presse française entretient elle-même la confusion entre les vasectomies contraceptives de l'affaire de Bordeaux et les stérilisations eugénistes de l'Allemagne hitlérienne, comme dans le Progrès de la Somme le 3 avril 1935.
On a arrêté à Bordeaux et l'on va poursuivre des hommes qui s'étaient prêtés volontairement à l'opération de la stérilisation. Dans d'autres pays, cette opération est au contraire légale pour certaines catégories d'hommes. Ceux atteints de maladies transmissibles, les fous, les criminels, etc. Cet etc. est d'ailleurs plein de menaces. Car on ne peut dire où les législateurs, une fois lancés sur cette pente, pourront s'arrêter. N'a-t-il pas été question en Allemagne de stériliser tous les non-ariens afin de garder sa pureté ethnique à la race germanique ? Nous en sommes là.
en pleine civilisation.
Si une partie de la presse associe la vasectomie contraceptive telle que la pratique Norbert Bartoszek aux campagnes nazies de stérilisation forcée, ce n'est pas seulement pour discréditer le mouvement anarchiste, comme certains militants le dénoncent à l'époque. Non, au début du XXe siècle, la doctrine eugéniste dépasse largement les frontières de l'Allemagne. En France, comme ailleurs en Europe, certains néo-malthusiens, anarchistes révolutionnaires et réformateurs sociaux défendent eux aussi la stérilisation de ceux qu'on désigne alors comme des dégénérés. La stérilisation des plus fragiles apparaît alors comme un outil de prévention sociale au bénéfice du prolétariat. Un positionnement paradoxal qui semble contredire les principes fondamentaux de la pensée libertaire. Et puis arrivent les décisions judiciaires dont la Gazette de Bayonne se fait l'écho le 4 avril 1936.
Il n'est pas besoin de rappeler à nos lecteurs l'affaire des stérilisés. Maître Chapard, juge d'instruction, vient de rendre un non-lieu en faveur de M. Aristide Lapeyre et de Mme Prévotel. Quant à Bartoszek, Louis Harel et André Prévotel, qui primitivement étaient destinés à la cour d'assises, ils sont renvoyés pour violence devant une prochaine audience au tribunal correctionnel où ils seront défendus par Maître Prieur. Ainsi va se terminer cette affaire qui fit couler tant d'encre.
L'audience est ouverte.
C'est le 1er mai, date symbole des luttes ouvrières, que se tient le procès de Norbert Bartoszek et de ses comparses anarchistes. Louis Harel, qui l'a assisté lors des vasectomies menées à Bordeaux un an plus tôt, et André Prévotel, dont l'appartement a fait office de salle d'opération, comparaissent également comme complices. Il est 13h30 quand l'accusé principal s'assoit sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel de Bordeaux. Le chef d'inculpation retenu par la justice est celui de coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente. Une accusation grave qui aurait pu relever de la cour d'assises. Et Bartoszek aurait alors encouru une peine de travaux forcés de 10 à 20 ans. Mais le parquet bordelais a fait le choix de porter l'affaire en correctionnel. Non seulement les victimes présumées ont tout assuré de leur consentement, mais il s'agit aussi d'éviter la surmédiatisation d'une affaire qui a déjà fortement secoué l'opinion publique en 1935. À la barre, Norbert Bartoszek impressionne. La presse salue son français impeccable, son aisance, ses traits agréables. Le militant chirurgien retrace son parcours de l'Autriche à la France en passant par l'Espagne, avant d'assumer toute la responsabilité des opérations dont on l'accuse. Il expose ses convictions politiques. Liberté individuelle, droit à disposer de son corps et nécessité sociale de la stérilisation. Ces deux co-accusés, Louis Harel et André Prévotel, assument eux aussi les faits de complicité qui leur sont imputés. Avec une bonhomie qui fait sourire à la salle d'audience, Prévotel rappelle les raisons qui l'ont amené personnellement à recourir à une vasectomie en toute connaissance de cause, autrement dit, éviter à sa femme un accouchement supplémentaire après qu'elle a failli mourir à la naissance de leur fils. Le petit courrier du 1er mai 1936 décrit ainsi la suite de l'audience.
Nous appelons à la barre.
On entend ensuite les témoins, notamment le professeur Chavanaz de Bordeaux, qui déclare que l'opération de stérilisation diminue l'homme en lui enlevant ses moyens de procréation. Il ajoute que l'opération contraire, rendant à l'homme ses facultés premières, n'est pas impossible.
Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le professeur Duverger conclut dans les mêmes termes que son collègue. Monsieur Steck, substitut du procureur, demande une condamnation pour les trois inculpés, principalement pour Bartoszek, qui a opéré avec préméditation, mais il est vrai, avec le rassentiment des individus sains. L'audience est suspendue à 15h15.
Au-delà de la question du consentement des victimes présumées, l'enjeu principal de ce procès est de qualifier un fait inédit pour un tribunal, puisque la loi française définit la castration mais pas la vasectomie. 1. L'opération est-elle réversible ? 2. Est-elle dangereuse pour la santé des patients ? 3. Selon quels critères ? Tandis que la défense insiste sur le caractère bénin et temporaire de la vasectomie, l'accusation s'attelle à la présenter comme une mutilation sans retour. Aux expertises scientifiques se mêlent des arguments éthiques et moraux contre la vasectomie et plus généralement contre la contraception. les avocats de la défense, maître Charpentier, Prieur et Molirac, demandent à la cour l'acquittement de leurs clients, insistant sur le consentement des patients et l'absence de jurisprudence en ce domaine. Mais le 2 mai 1936, au lendemain de l'audience, le président annonce le jugement. Norbert Bartoszek est condamné à 3 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour pour castration et violence volontaire, tandis que Louis Harel et André Prévotel écopent, eux, de 6 mois pour complicité. Au terme d'une forte mobilisation des mouvements libertaires et d'associations de défense des droits humains, les peines sont réduites en appel et Bartoszek est finalement libéré après 15 mois de détention préventive. Pour les militants anarchistes qui défendent la contraception, et en particulier la stérilisation volontaire, ce procès est à la fois une défaite et une victoire. Une défaite parce que la condamnation de Norbert Bartoszek a prouvé la force réactionnaire des institutions françaises, presse, justice, médecine. Mais une victoire, car la couverture médiatique de l'affaire a permis d'exposer au grand jour cette méthode de contraception méconnue, dont la loi sur la protection de la famille interdit la promotion. La presse s'était aperçue qu'elle ne faisait qu'exciter de la curiosité du public et créer un courant de sympathie à l'égard des enfermés du fort du A, se demande le périodique anarchiste Landehor, alors que l'intérêt de la presse pour l'affaire commence à s'épuiser. Malgré sa condamnation, Norbert Bartoszek poursuit la mission qu'il s'est donnée, œuvrer en faveur de la liberté via son combat pour la contraception. Interdit de séjour à Bordeaux, il voyage à Lyon, en Suisse, puis en Vendée pendant la Seconde Guerre mondiale, où, comme tant d'autres chirurgiens anonymes, il continue de pratiquer clandestinement des opérations de vasectomie. Il meurt en exil à Buenos Aires en 1959, 42 ans avant la légalisation en France de la stérilisation volontaire, masculine comme féminine.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les stérilisés de Bordeaux, notre invitée Élodie Cernat. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse indépendante, autrice de « Faire et défaire la virilité », un livre publié aux presses universitaires de Rennes, et de « Opération vasectomie », justement, « Histoire intime et politique d'une contraception au masculin ». Ce livre a été publié aux éditions Libertalia en 2021. Alors, vous êtes l'une des rares en France, hein, parmi les chercheuses, à avoir travaillé sur l'affaire des stérilisés de Bordeaux, et plus généralement sur l'histoire de la vasectomie. Comment cette recherche a-t-elle commencé? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille?
Alors en fait, c'est arrivé un peu par hasard que je travaille sur ce sujet. C'est parce que je suis tombée sur une brève sur un site internet qui s'appelle l'éphéméride anarchiste, qui juste mentionnait le fait que en 1935, des gens s'étaient fait arrêter à Bordeaux, et ça mentionnait le nom de Norbert Bartoszek, s'étaient fait arrêter à Bordeaux pour avoir fait des stérilisations dans un appartement. Et en fait, c'était pour moi une énigme à résoudre. C'est-à-dire que je me suis tout de suite demandé comment c'était possible qu'un couple ordinaire ait pu organiser une session de vasectomie à domicile, alors que à ce moment-là, donc c'était à peu près vers 2010, l'opération de vasectomie semblait encore assez rare en France. Donc je l'avais imaginée
toute récente.
Donc j'ai cherché un petit peu à trouver une explication à ça, et il se trouve qu'en fait personne n'avait travaillé sur l'histoire des stérilisations volontaires ni sur l'histoire de la vasectomie. Donc je me suis en quelque sorte attelée à résoudre cette énigme, et c'est parti donc de cette affaire de Bordeaux pour finalement trouver plein de ramifications, d'embranchements, de sujets connexes, et au fur et à mesure de Bordeaux, j'ai suivi le parcours de Bartoszek sans vouloir faire une biographie de ce personnage, mais en voulant un peu tirer de son histoire, de ce fait divers, l'opportunité d'écrire une page de l'histoire de la contraception qui n'avait pas encore été abordée, c'est-à-dire que ce lien entre masculinité et fertilité, ou plutôt infertilité, ça m'a semblé intéressant, et ça m'a semblé aussi intéressant d'aller chercher dans les le dans les sources ce que ces militants anarchistes, qui étaient précurseurs de la lutte pour l'accès à la contraception et à l'avortement, faire émerger comme idée autour de la stérilisation volontaire et de la vasectomie.
Voilà, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs dimensions. Dimension médicale, mais qui n'est pas essentielle parce que l'opération n'est pas très, très compliquée, apparemment. Et puis, il y a une dimension politique, surtout politique et sociétale. Donc, c'est un épisode passionnant de notre histoire. Et pourtant, assez méconnu. Pourquoi cette affaire est-elle plus ou moins tombée dans l'oubli?
Alors, il me semble qu'il y a plusieurs explications à ça. Déjà, cette affaire, elle sort c'est en 1935, procès en 1936, donc dans une période d'intensité. Les événements politiques s'enchaînent. On est vraiment dans un moment où il y a des enjeux qui relativisent beaucoup.
Bien sûr, le risque de guerre.
L'impact de ces stérilisations clandestines. Voilà, on est après la Première Guerre mondiale avec tout ce qui a été raconté là dans ce récit. Cette importance de la politique nataliste à ce moment-là, Hitler au pouvoir en 1933 en Allemagne, la crainte d'un retour de la guerre, tout ça voilà, relativise quand même l'enjeu de quelques stérilisations clandestines. Il y a aussi une affaire qui tombe dans l'oubli parce que après ce procès en 1936, il y a des gens qui continuent à se stériliser de la même manière, mais qui veulent volontairement rendre cette pratique invisible. Donc c'est dès le retour de Bartoszek à la liberté, mais c'est aussi après la guerre, dans les années 50, où il y a encore des gens qui cherchent à se faire vasectomiser, mais ce sont des pratiques illégales de clandestinité, c'est la question de la mémoire des vaincus, de ceux d'en bas, mais de façon un peu plus large aussi, de façon plus pragmatique pour les historiens, c'est aussi la question de l'accès aux sources, c'est-à-dire que cette histoire, elle tombe dans l'oubli aussi, parce qu'il est quand même difficile de rendre compte de ce que les acteurs de l'histoire eux-mêmes ont voulu rendre invisible.
C'est d'autant plus regrettable qu'elle soit plus ou moins, je dis plus ou moins tombée dans l'oubli parce que certains connaissent l'histoire, à commencer par vous, parce que c'est aussi une période de montée des fascismes, de peur de la guerre et surtout de l'eugénisme nazi, donc les stérilisations forcées et qui ne se passent pas, je crois, qu'en Allemagne. Il y a tout un courant. Et évidemment, ça vient télescoper les stérilisations de Bartoszek.
Oui, alors il y a pas mal de travaux d'historiens qui ont montré que l'eugénisme était très présent en Europe, dans les pays anglo-saxons, en Europe du Nord aussi particulièrement. Et bien sûr, on retient et à juste titre le fait que l'eugénisme nazi était le plus marquant. Mais c'était pas une doctrine, l'eugénisme, donc ça visait en fait ça se définit comme l'ambition de perfectionner la qualité de l'humain, et ça ne s'est pas du tout limité à un camp politique ou à une petite partie.
Je veux dire, ça rend l'affaire sensible. Je veux dire, c'est ça qui rend l'affaire sensible aussi.
Rend l'affaire sensible parce que bien que les discours des gens qui ont été opérés, qui ont rapidement pris la parole, soient assez clairs sur leurs motivations, qui sont très néo-malthusiennes, qui sont très liées à leurs conditions d'ouvriers, qui sont très liées à des motivations aussi de libre disposition de soi, il y a beaucoup de mauvaise foi en prétendant que Bartoszek, parce qu'il est autrichien, il serait un ennemi venu propager une méthode pour limiter la natalité en France.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Élodie Cerda, notre invitée aujourd'hui, je précise que vous intervenez en direct des studios de d'Ici Nord, notre radio de Radio France dans le Nord. D'ailleurs, nous les remercions pour leur accueil. Est-ce que cette affaire a influencé la manière dont la société française et les autorités ont pensé la contraception masculine par la suite? Pensée ou impensée d'ailleurs?
Cette affaire, elle est restée finalement la seule jurisprudence jusqu'en 2001, jusqu'à la date de légalisation de la contraception définitive à propos de stérilisation masculine. Mais de fait, c'est plutôt un impensé, c'est-à-dire que c'est une histoire qui a été oubliée pendant des décennies, sauf chez les militants anarchistes. Et c'est une pratique qui a été rare. Il n'y a pas eu de demande sociale importante de la part des hommes. On peut noter juste dans les années 70, au milieu des années 70, que toujours dans les milieux anarchistes, là, il y a des hommes hommes qui se sont organisés pour revendiquer l'accès à la stérilisation. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'il y a eu, que ça a eu une importance essentielle sur, sur la législation ou sur la manière de penser cette question-là, la contraception masculine.
Est-ce que la filiation entre vasectomie et anarchiste vous paraît naturelle, logique ?
Alors, je ne sais pas si elle est naturelle ou logique, mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que dans les années 30, comme plus tard dans les années 70, c'est dans ces milieux anarchistes qu'on trouve des gens qui défendent l'idée d'un accès libre à la stérilisation et particulièrement à la vasectomie. Donc, c'est ça qui me semble le plus intéressant de constater. Après, est-ce que dans la philosophie, ça c'est absolument logique. Peut-être qu'on aurait pu imaginer ça dans d'autres milieux aussi.
Oui, bien sûr. Mais il y a le concept de liberté, le concept libertaire. Aussi, alors je vais vous poser une question un peu naïve, mais la contraception c'est très bien, mais ça peut aussi poser des problèmes. Il y a tout un tas de moyens contraceptifs qui peuvent poser des problèmes aux femmes. Là, la vasectomie a l'air tout à fait efficace, facile, simple. Pourquoi n'est-elle pas plus répandue ?
Alors, en fait, si on parle du contexte français, il y a des raisons qui ont été étudiées, notamment à travers des études comparatives avec la Grande-Bretagne, par Cécile Ventola, une sociologue. Ça montre que, en fait, il y a quand même ce passé nataliste qui compte beaucoup en France, mais il y a aussi des représentations assez traditionnalistes de ce que doit être un homme viril, et on a l'impression que ça peut contrevenir à une certaine représentation de la virilité. Mais au-delà de ça, il y a aussi un problème d'information, de connaissance des méthodes, et ce qu'on constate, c'est qu'en France, mais même dans le milieu médical, en fait, il y a eu pendant très longtemps une méconnaissance totale du sujet. Ça a été, donc, comme vous l'avez dit, légalisé en 2001. Et pour autant, même dans les années suivantes, il y a eu des études qui ont été faites qui montraient qu'il y avait un très grand pourcentage de médecins eux-mêmes qui ne connaissaient pas la procédure. Et le nombre de vasectomies est resté vraiment très faible jusque-là, dans les dernières années qu'on connaît, où il y a vraiment une grande hausse. Mais c'est dû à la fois à des représentations sur les questions de genre, à des réticences culturelles, religieuses, et aussi à une grande réticence de la part du milieu médical lui-même.
La charge contraceptive repose aujourd'hui essentiellement sur les femmes. C'était aussi le but de ces stérilisations d'hommes. Donc, alors que d'autres moyens contraceptifs existent, et pas seulement la vasectomie, notamment via les anneaux testiculaires et autres sous-vêtements chauffants, où en est-on de la contraception thermique qui agit sur les spermatozoïdes ?
Alors, il y a maintenant pas mal d'associations, de collectifs en France qui proposent des ateliers pour que les personnes qui souhaitent recourir à des contraceptions testiculaires apprennent à le faire de façon fiable. Et en fait, si on cherche bien sur Internet, on peut trouver comment se fournir ces anneaux, par exemple. Mais leur vente n'est pas encore légale. Il y a aujourd'hui une coopérative qui est en train de mener un protocole de recherche pour parvenir à une commercialisation en pharmacie. Ils espèrent pouvoir commercialiser ça en 2028. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, ce qui reste possible, c'est de s'adresser aux permanences du planning familial ou dans ces associations et collectifs locaux qui sont dédiés à la contraception testiculaire pour avoir les informations nécessaires. Mais ça reste une question aussi de savoir ce que ça signifie. À un moment donné, la contraception est traditionnellement gérée par les femmes, et de faire en sorte que ce soit les hommes aussi qui la prennent en charge pour plus d'équité, c'est évidemment une très bonne chose. Et ça pose aussi des questions quant aux conséquences des échecs contraceptifs pour les femmes, puisque ce sont elles qui assument les échecs contraceptifs.
Alors, vous n'êtes pas médecin, certes, mais qu'est-ce qu'on dit de l'efficacité de la contraception thermique, justement, ça ? D'un point de vue scientifique, la méthode fonctionne bien ? Qu'est-ce qu'on en dit ?
En fait, c'est une méthode qui est expérimentée depuis déjà des décennies, c'est-à-dire qu'elle est issue des recherches qui ont été faites par un groupe Ardecom, qui s'appelle Ardecom, Association pour la Recherche et le Développement de la Contraception Masculine. Ce groupe, il s'est créé en 79 et c'était vraiment des hommes volontaires et des médecins qui ont travaillé ensemble pour trouver une méthode efficace. Et donc jusqu'à maintenant, cette méthode, elle semblait efficace par les retour de façon assez informelle. Et depuis quelques années, il y a de plus en plus d'études, de thèses qui sont faites. Et c'est bien ce genre de travail qui est mené pour pouvoir parvenir à la commercialisation de l'anneau. Donc je ne vais pas me placer en spécialiste de la question et donner des chiffres, mais c'est plutôt très encourageant sur les résultats qu'on connaît maintenant.
Alors, il nous reste une minute, donc je me permets de revenir un petit peu en arrière sur les années 70. Le féminisme a connu un moment important dans les années 70. Est-ce que pendant ce temps-là, alors loin de la pensée eugéniste des années 30, évidemment, les hommes se sont appropriés la question de la vasectomie. Est-ce qu'il y a eu un mouvement aussi comme ça en même temps que celui des femmes de l'autre côté ?
Oui, au milieu des années 70, il y a eu en effet des gens qui se sont organisés dans le but de faire, avec la Fédération anarchiste, dans le but de faire une campagne pour la vasectomie en 75. Donc ils avaient sorti une brochure qui s'appelle « La vasectomie, une contraception masculine interdite ». Ils avaient organisé des assises à Paris et ils avaient tenté d'organiser aussi un certain nombre de discussions et d'événements autour de cette question-là. Et donc, évidemment, là, c'est... C'était aussi lié à toutes les luttes féministes qui étaient passées juste avant, qui étaient encore très vives à ce moment-là, et qui militaient pour un libre accès à la contraception. Et les hommes ont pris de cette façon-là un petit peu leur part de la question.
Alors, toute dernière chose, donc si j'ai bien compris, pour que les choses soient bien claires, on était plus avancé dans la vasectomie dans les pays anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, plus avancé qu'en France. On est bien d'accord ?
Oui, nettement. Et c'est notamment lié à cette question de l'histoire de l'eugénisme qui était très présent dans les pays anglo-saxons et très peu présent en France.
Très bien, merci, c'est très clair. Ce sera le mot de la fin, Élodie Cerda. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les stérilisés de Bordeaux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.